Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Je reçois pour ce troisième entretien de la semaine au micro Monseigneur Emmanuel Gobillard. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Alors on parle un petit peu et on revient sur l'institution Église avec ses nombreux frères prêtres, cette vocation particulière. Et si on parlait de cette vocation et de cet appel particulier du célibat, ce célibat que vous vivez et que vous avez choisi? Un célibat pas toujours compris, et surtout dans les temps que nous traversons actuellement.
Oui, alors d'abord j'ai redécouvert un peu mon célibat aussi à Madagascar. Je l'avais déjà découvert par le contact avec les plus pauvres, faut dire les choses. Pour moi, il y a un lien très fort entre notre célibat et les plus pauvres. Je me souviens d'un garçon dont je parle aussi dans le livre, qui m'avait dit « j'ai compris ton célibat ».
Mario,
voilà, oui, j'ai compris ton célibat. Et je lui ai dit, à l'époque j'étais séminariste, je lui ai dit « mais explique-moi ». Et il m'a dit « en fait, quand tu es là, je me repose dans ton cœur ». Alors je lui dis, ça veut dire quoi ça? Enfin, voilà, c'est des grands mots, mais ça veut dire quoi en vrai? Il me dit, en fait, quand les dames de la Croix-Rouge, elles viennent pour me donner un peu des choses, des gâteaux, des choses comme ça, elles viennent, et je suis tellement content qu'elles soient là, elles me font tellement de bien, elles font tellement plaisir. Mais quand elles viennent, dans leur cœur, il y a leur mari, leurs enfants, et c'est normal, et heureusement, leur priorité est donnée à eux. Toi, quand tu viens, ta mission, c'est d'être là que pour moi. Alors peut-être que juste après, tu iras dans une autre chambre, et ta mission, ça sera d'être que pour l'autre, mais pour l'instant, c'est que pour moi, parce que ton cœur, il est libre pour cela. Et là, je me suis dit, le célibat que nous vivons, c'est le célibat du Christ. Le célibat du Christ, il dit l'amour personnel de Dieu pour chacun de nous. C'est-à-dire que, comme disait Mère Emmanuel, il n'a fermé les bras sur personne pour pouvoir les ouvrir sur tous. Et ce sont les pauvres qui ont le plus besoin d'être aimés. Ce sont les pauvres qui ont le plus besoin de ce témoignage de Dieu, c'est pas le nôtre, le célibat, c'est celui de Dieu, c'est celui du Christ, de Dieu qui se donne à eux à travers cette disponibilité du cœur. Et le plus important, c'est la disponibilité du cœur. C'est pas une question d'emploi du temps, c'est une question d'attitude intérieure. Alors, c'est une exigence qu'on a du mal à vivre, bien sûr. Quand il me dit ça, Mario, moi je me trouve tout bête et tout pauvre, en me disant, je le vis pas très bien parce que j'ai plein de préoccupations dans mon cœur, il faudrait peut-être que je m'en sépare et que je m'en libère. Mais en vrai, il m'a donné le sens profond de mon célibat. Et on a besoin de garder ce sens profond pour les pauvres. Et parce que c'est Jésus qui l'a vécu, et c'est Jésus qui nous invite à sa suite à le vivre. Donc c'est une richesse, c'est une spécificité. Il ne faut pas non plus dire, oui, mais comment ça se fait que les protestants ne le vivent pas? Comment ça se fait que les orthodoxes ne le vivent pas? Eh bien, chacun est différent. Eh bien, c'est une spécificité de l'Église catholique. Surtout, gardons-le. Ce qui est spécifique, c'est souvent une grande richesse.
Et au fond, quelle est la fécondité de ce célibat pour l'Église?
La fécondité du célibat, en fait, elle ne m'appartient pas. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi de décider quelle est la fécondité. Le célibat, il est aussi de laisser la personne rencontrer Jésus. C'est-à-dire que dans le célibat, il y a une pauvreté qui est dans l'effacement. C'est-à-dire qu'il faut faire attention parce qu'il peut y avoir un risque du célibataire de vouloir posséder la personne ou bien de vouloir exercer une paternité psychologique qui ne lui est pas demandée. Attention, on est père, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas là pour compenser, entre guillemets, une paternité qu'on n'aurait pas vécue. On est là pour laisser Dieu être père. Donc ça veut dire qu'il faut quand même s'effacer. Notre célibat doit être aussi un effacement pour que la relation entre le fidèle et le Seigneur soit vraie. Et donc c'est aussi très appauvrissant de vivre cet effacement.
Alors vous avez écrit il y a déjà quelques temps autour, et on y revient, cette expérience riche d'un an, je crois, tout juste à Madagascar, où vous avez écrit donc ce journal, le journal de Tonjo Moa, Quand le cœur se dévoile au contact des plus pauvres, un livre qui était paru aux éditions des Béatitudes, que j'ai un peu très vite parcouru. Vous me permettez, je lis un extrait d'une de ces lettres que vous avez écrite sur les tentations du prêtre. En méditant il y a quelques jours sur l'évangile des tentations de Jésus au désert, j'ai été mis face à mes propres tentations qui sont aussi celles de la plupart des prêtres. Comme pour Jésus au désert, les prêtres sont, me semble-t-il, confrontés à trois grandes tentations. L'ambition ecclésiastique, l'ascédie ou paresse spirituelle et le désespoir.
Oui, en fait, cette tentation, elle est liée. Ces tentations, elles sont liées au fait que on s'imagine que la conversion des autres, elle vient de nous, que la mission, elle vient de nous, et donc on se donne fortement, et au début parfois avec excès, dans la mission, en organisant plein de choses. On organise des pèlerinages, on organise des célébrations magnifiques, on organise beaucoup, on se réfugie dans l'organisation, et on oublie que, en fait, la fécondité, elle n'est pas liée à notre organisation, elle n'est pas liée à nos structures, elle est liée à la gratuité du don de Jésus sur la croix. Et donc, le mystère de la croix, c'est le lieu de la plus grande fécondité, en même temps que le lieu de la plus petite efficacité. Il n'y a personne autour de Jésus sur la croix, c'est un échec cuisant au niveau humain, et c'est le lieu de la plus grande fécondité. Donc, il faut se rappeler que nous ne possédons pas notre ministère, et donc, on doit ne pas s'enorgueillir de sa mission. Et donc, parce que si on s'enorgueillit, on risque de désespérer quand ça ne marche pas. C'est pour ça que je parle aussi du désespoir. L'ambition ecclésiastique pour pouvoir paraître, le désespoir quand on découvre que, finalement, il n'y a pas de fruit à cette ambition. En fait, c'est au contraire plutôt que des échecs. Hein. Donc c'est très important de se dire, la racine de tout cela, c'est le fait de posséder son ministère. Et en fait, le Seigneur nous invite à nous déposséder de nous-mêmes et de notre ministère. Ses fidèles, ce sont les siens. Le sacerdoce dont on est revêtu, c'est le sien. La mission pour laquelle il nous envoie, c'est sa mission à lui, c'est pas la nôtre.
C'est lui le sauveur.
Et voilà, c'est lui qui sauve. Et nous, d'abord, on est les sauvés, c'est-à-dire qu'on est ceux qui reçoivent, qui sont les premiers bénéficiaires de ces sacrements qu'on propose aux autres. Donc, il faut d'abord commencer par se confesser nous-mêmes, par vivre l'Eucharistie, par vivre les différents sacrements qui sont proposés.
Vivre un accompagnement spirituel aussi.
Vivre l'accompagnement spirituel, bien sûr.
Vous êtes vous-même, Monseigneur, accompagné.
Oui.
Spirituellement.
Par un frère évêque.
Par un frère évêque.
Oui, parce qu'il comprend mieux.
Il comprend mieux la tâche aussi. Il y a des difficultés dans cette charge d'évêque.
Oui, alors, sur l'accompagnement, je voudrais dire d'abord que on accompagne les autres, soyons accompagnés. Quoi. C'est-à-dire, comment on peut imaginer accompagner les autres si on n'est pas soi-même accompagné? D'ailleurs, ça serait scandaleux pour les fidèles. Hein, parce que ce n'est pas nous qui sauvons, parce que ce n'est pas nous qui accompagnons, c'est Jésus. Voilà, c'est Jésus qui accompagne. Hein. À propos de l'accompagnement, j'ai une autre chose à dire, c'est que dans l'Église...
Il y a plein de choses à dire.
L'accompagnement, c'est d'abord un accompagnement de groupe. C'est-à-dire que c'est le groupe qui accompagne. C'est le groupe scout, c'est l'ACE, c'est le MEJ, c'est l'aumônerie pour les jeunes. Et c'est d'abord un accompagnement de groupe, comme Jésus avec ses apôtres. Et ensuite, un accompagnement personnel. Et donc, l'accompagnement personnel, il doit se vivre en cohérence avec l'accompagnement de groupe. Et donc, on doit être très pauvre par rapport à cet accompagnement. C'est Jésus qui accompagne de multiples manières.
Alors là aussi, dans cette approche aussi de l'accompagnement individuel, l'accompagnement est important et parfois des dérapages aussi. On peut accompagner, avoir une mainprise et une forme de manipulation aussi. C'est les risques et les débordements que...
Voilà, c'est pour ça qu'il faut accueillir le fait qu'il y a d'autres accompagnements dans l'Église. On est un des accompagnements. Ce n'est pas nous qui accompagnons la personne, en fait. Il y a plein d'accompagnements dans l'Église, des groupes, etc. Et puis on est que de passage et c'est Jésus qui accompagne. Voilà.
Alors, il y a aussi quelques carences aussi dans l'accompagnement. Comment sont accompagnés les évêques? Comment sont accompagnés nos prêtres aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas des carences, justement, sur l'accompagnement même des prêtres?
Je pense qu'il y a une défaillance au niveau de la formation.
Et de la paternité. Permettez-moi d'évoquer aussi cette carence, peut-être, dans la paternité spirituelle.
C'est-à-dire que la paternité, si elle est vécue comme une pauvreté, comme une dépendance de la paternité de Dieu, c'est bien. Si elle est vécue comme une compensation d'une paternité qu'on n'a pas vécue parce qu'on est célibataire, c'est catastrophique. Hein. Donc, je pense qu'à propos de l'accompagnement, il y a une défaillance dans la formation. Il n'y a pas assez de formation à l'accompagnement. Et il faudrait même peut-être aller jusqu'à imaginer un vadémécum de l'accompagnateur pour savoir comment il peut... Voilà, enfin, un guide, en tout cas, pour que lui-même soit formé. Je pense aussi qu'un prêtre qui a moins de 5 ans de sacerdoce, en tout cas moins de 3 ans, ne doit pas accompagner. Il doit d'abord faire l'expérience de son ministère. Il doit d'abord mieux connaître les gens. Voilà, je pense qu'il y a des choses à faire dans ce domaine. Oui.
Donc sur le terrain, aujourd'hui, un prêtre ordonné n'est pas accompagnateur?
Non, il peut confesser. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas du tout la même chose. La confession, c'est un sacrement qui se vit à travers un rituel, à travers la parole de Dieu, à travers un commentaire de la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir. L'accompagnement, ça demande un peu plus d'expérience. Ça demande aussi de faire l'expérience de se déposséder de soi-même. Ça demande de faire l'expérience... que parfois au début on est dans la séduction, il ne faut surtout pas être dans la séduction, parce que si on est dans la séduction, eh ben, on manipule, et ça demande de l'expérience tout ça. En fait, quand on est un jeune prêtre à peine ordonné, évidemment qu'on sera un peu dans la séduction.
Donc on est automatiquement un peu, que ça soit prêtre ou
on a envie de bien faire, on a envie de plaire, c'est normal quoi. Donc il faut un peu plus d'expérience pour comprendre.
Donc de l'expérience et très vite pour sortir quand même de cette séduction, pour arriver aussi à la mission.
Voilà, c'est
parce que le cœur, c'est la mission, c'est le salut des âmes, vous êtes d'accord.
Donc c'est d'être les instruments de la rencontre entre Jésus et les personnes.
Donc y arrêter peut-être et sortir peut-être des mondanités relationnelles.
Aussi.
Et missionnaires, mondanité. Missionnaire, on peut en parler aussi, devenir des disciples missionnaires en se retirant peut-être d'attitudes ou de comportements trop mondains. Monseigneur Gobillard, je vous propose de vous retrouver demain encore avec quelques clés pour accompagner un peu cette compréhension de l'Église et de nos frères prêtres, de nos frères évêques dans cette particularité aussi de l'appel et puis de ce célibat, un célibat fécond pour l'Église et le monde. À demain.
À demain.